Marx. Le principe d'accumulation infinie. Quand Marx publie en 1867 le premier tome du Capital, soit exactement un demi-siècle après la publication des Principes de Ricardo, les réalités économiques et sociales ont profondément évolué. Il ne s'agit plus de savoir si l'agriculture pourra nourrir une population croissante ou si le prix de la terre montera jusqu'au ciel, mais bien plutôt de comprendre la dynamique d'un capitalisme industriel en plein essor. Le fait le plus marquant de l'époque est la misère du prolétariat industriel. En dépit de la croissance, ou peut-être en partie à cause d'elle, et de l'énorme exode rural que la progression de la population et de la productivité agricole a commencé à provoquer, les ouvriers s'entassent dans des taudis. Les journées de travail sont longues, pour des salaires très bas. Une nouvelle misère urbaine se développe, plus visible, plus choquante, et par certains côtés plus extrême encore que la misère rurale de l'Ancien Régime. Germinal, Oliver Twist ou Les Misérables ne sont pas nés de l'imagination des romanciers, pas plus que les lois interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures, en France en 1841, ou de moins de 10 ans dans les mines au Royaume-Uni en 1842. Le tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures, publié en France en 1840 par le docteur Villermé et qui inspire la timide législation de 1841, décrit la même réalité sordide que « La situation de la classe laborieuse en Angleterre », publié en 1845 par Engels. De fait, toutes les données historiques dont nous disposons aujourd'hui indiquent qu'il faut attendre la seconde moitié, ou même plutôt le dernier tiers, du XIXe siècle pour observer une hausse significative du pouvoir d'achat des salaires. Des années 1800-1810 aux années 1850-1860, les salaires ouvriers stagnent à des niveaux très faibles, proches de ceux du XVIIIe siècle et des siècles précédents, voire inférieurs dans certains cas. Cette longue phase de stagnation salariale, que l'on observe aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, est d'autant plus impressionnante que la croissance économique s'accélère pendant cette période. La part du capital, profits industriels, rentes foncières, loyers urbains, dans le revenu national, dans la mesure où on peut l'estimer avec les sources imparfaites dont on dispose aujourd'hui, progresse fortement dans les deux pays au cours de la première moitié du XIXe siècle. Elle diminuera légèrement dans les dernières décennies du XIXe siècle, quand les salaires rattraperont en partie leur retard de croissance. Les données que nous avons rassemblées indiquent toutefois qu'aucune diminution structurelle des inégalités ne se produit avant la Première Guerre mondiale. Au cours des années 1870-1914, on assiste au mieux à une stabilisation des inégalités à un niveau extrêmement élevé, et par certains aspects à une spirale inégalitaire sans fin, avec en particulier une concentration de plus en plus forte des patrimoines. Il est bien difficile de dire où aurait mené cette trajectoire sans les chocs économiques et politiques majeurs entraînés par la déflagration de 1914-1918, qui apparaissent à la lumière de l'analyse historique, et avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, comme les seules forces menant à la réduction des inégalités depuis la révolution industrielle. Toujours est-il que la prospérité du capital et des profits industriels, par comparaison à la stagnation des revenus allant au travail, est une réalité tellement évidente dans les années 1840-1850 que chacun en est parfaitement conscient, même si personne ne dispose à ce moment de statistiques nationales représentatives. C'est dans ce contexte que se développent les premiers mouvements communistes et socialistes. L'interrogation centrale est simple : à quoi sert le développement de l'industrie ? À quoi servent toutes ces innovations techniques, tout ce labeur, tous ces exodes, si au bout d'un demi-siècle de croissance industrielle, la situation des masses est toujours aussi misérable, et si l'on en est réduit à interdire le travail dans les usines pour les enfants au-dessous de 8 ans. La faillite du système économique et politique en place paraît évidente. La question suivante l'est tout autant. Que peut-on dire de l'évolution à long terme d'un tel système ? C'est à cette tâche que s'attelle Marx. En 1848, à la veille du « Printemps des peuples », il avait déjà publié le Manifeste communiste, texte court et efficace, qui débute par le fameux « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme » et se termine par la non moins fameuse prédiction révolutionnaire « Le développement de la grande industrie sape, sous les pieds de la bourgeoisie, le terrain même sur lequel elle a établi son système de production et d'appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables. » Dans les deux décennies qui vont suivre, Marx va s'appliquer à écrire le volumineux traité qui devait justifier cette conclusion et fonder l'analyse scientifique du capitalisme et de son effondrement. Cette œuvre restera inachevée. Le premier tome du « Capital » est publié en 1867, mais Marx s'éteint en 1883 sans avoir terminé les deux tomes suivants, qui seront publiés après sa mort par son ami Engels, à partir des fragments de manuscrits parfois obscurs qu'il a laissés. Comme Ricardo, Marx entend asseoir son travail sur l'analyse des contradictions logiques internes du système capitaliste. Il entend ainsi se distinguer à la fois des économistes bourgeois, qui voient dans le marché un système autorégulé, c'est-à-dire capable de s'équilibrer tout seul, sans divergence majeure, à l'image de la main invisible de Smith et de la loi des débouchés de C, et des socialistes utopiques ou proudhoniens, qui selon lui se contentent de dénoncer la misère ouvrière, sans proposer d'études véritablement scientifiques des processus économiques à l'œuvre. Pour résumer, Marx part du modèle ricardien du prix du capital et du principe de rareté, et pousse plus loin l'analyse de la dynamique du capital en considérant un monde où le capital est avant tout industriel, machines, équipements, etc., et non terrien, et peut donc potentiellement s'accumuler sans limite. De fait, sa principale conclusion est ce que l'on peut appeler le principe d'accumulation infinie, c'est-à-dire la tendance inévitable du capital à s'accumuler et à se concentrer dans des proportions infinies sans limite naturelle, d'où l'issue apocalyptique prévue par Marx, soit l'on assiste à une baisse tendancielle du taux de rendement du capital, ce qui tue le moteur de l'accumulation et peut conduire les capitalistes à s'entre-déchirer, soit la part du capital dans le revenu national s'accroît indéfiniment, ce qui conduit à plus ou moins brève échéance les travailleurs à s'unir et à se révolter. Dans tous les cas, aucun équilibre socio-économique ou politique stable n'est possible. Ce noir destin ne s'est pas davantage réalisé que celui prévu par Ricardo. À partir du dernier tiers du XIXe siècle, les salaires se sont enfin mis à progresser. L'amélioration du pouvoir d'achat se généralise, ce qui change radicalement la donne, même si les inégalités demeurent extrêmement fortes et continuent par certains aspects de progresser jusqu'à la Première Guerre mondiale. La révolution communiste a bien eu lieu, mais dans le pays le plus attardé d'Europe, celui où la révolution industrielle avait à peine commencé, la Russie, pendant que les pays européens les plus avancés exploraient d'autres voies social-démocrates, fort heureusement pour leur population. De même que les auteurs précédents, Marx a totalement négligé la possibilité d'un progrès technique durable et d'une croissance continue de la productivité, force dont nous verrons qu'elle permet d'équilibrer, dans une certaine mesure, le processus d'accumulation et de concentration croissante du capital privé. Sans doute manquait-il de données statistiques pour affiner ses prédictions. Sans doute aussi est-il victime du fait qu'il avait fixé ses conclusions dès 1848, avant même d'entreprendre les recherches susceptibles de les justifier. De toute évidence, Marx écrivait dans un climat de grande exaltation politique, ce qui conduit parfois à des raccourcis hâtifs auxquels il est difficile d'échapper, d'où l'absolue nécessité de rattacher le discours théorique à des sources historiques aussi complètes que possible, ce que Marx ne cherche pas véritablement à faire autant qu'il aurait pu. Sans compter que Marx ne s'est guère posé la question de l'organisation politique et économique d'une société où la propriété privée du capital aurait été entièrement abolie, problème complexe s'il en est, comme le montrent les dramatiques improvisations totalitaires des régimes qui s'y sont engagés. Nous verrons cependant que, malgré toutes ces limites, l'analyse marxiste conserve sur plusieurs points une certaine pertinence. Tout d'abord, Marx part d'une vraie question, une invraisemblable concentration des richesses pendant la révolution industrielle, et tente d'y répondre avec les moyens dont il dispose. Voici une démarche dont les économistes d'aujourd'hui feraient bien de s'inspirer. Ensuite et surtout, le principe d'accumulation infinie défendu par Marx contient une intuition fondamentale pour l'analyse du XXIe comme du XIXe siècle, et plus inquiétante encore d'une certaine façon que le principe de rareté cher à Ricardo. Dès lors que le taux de croissance de la population et de la productivité est relativement faible, les patrimoines accumulés dans le passé prennent naturellement une importance considérable, potentiellement démesurée et déstabilisatrice pour les sociétés concernées. Autrement dit, une croissance faible ne permet d'équilibrer que faiblement le principe marxiste d'accumulation infinie. Il en résulte un équilibre qui n'est pas aussi apocalyptique que celui prévu par Marx, mais qui n'en est pas moins assez perturbant. L'accumulation s'arrête à un point fini, mais ce point peut être extrêmement élevé et déstabilisant. Nous verrons que la très forte hausse de la valeur totale des patrimoines privés, mesurée en années de revenu national que l'on constate depuis les années 1970-1980 dans l'ensemble des pays riches, particulièrement en Europe et au Japon, relève directement de cette logique. De Marx à Kuznets, de l'Apocalypse au conte de fées. En passant des analyses de Ricardo et de Marx au XIXe siècle à celles de Simon Kuznets au XXe siècle, on peut dire que la recherche économique est passée d'un goût prononcé et sans doute excessif pour les prédictions apocalyptiques à une attirance non moins excessive pour les contes de fées ou à tout le moins pour les happy ends. Selon la théorie de Kuznets, les inégalités de revenus sont en effet spontanément appelées à diminuer dans les phases avancées du développement capitaliste, quelles que soient les politiques suivies ou les caractéristiques du pays, puis à se stabiliser à un niveau acceptable. Proposé en 1955, il s'agit véritablement d'une théorie pour le monde enchanté des Trente Glorieuses. Il suffit d'être patient et d'attendre un peu pour que la croissance bénéficie à tous. Les Trente Glorieuses sont le nom souvent donné, surtout en Europe continentale, aux trois décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, caractérisées par une croissance particulièrement forte. Une expression anglo-saxonne résume fidèlement la philosophie du moment. Growth is a rising tide that lifts all boats. La croissance est une vague montante qui porte tous les bateaux. Il faut aussi rapprocher ce moment optimiste de l'analyse par Robert Solow en 1956 des conditions d'un sentier de croissance équilibré, c'est-à-dire une trajectoire de croissance où toutes les grandeurs, production, revenus, profits, salaires, capital, cours boursiers et immobiliers, etc., progressent au même rythme, si bien que chaque groupe social bénéficie de la croissance dans les mêmes proportions, sans divergence majeure. C'est le contraire absolu de la spirale inégalitaire ricardienne ou marxiste et des analyses apocalyptiques du XIXe siècle. Pour bien comprendre l'influence considérable de la théorie de Kuznets, au moins jusqu'aux années 1980-1990, et dans une certaine mesure jusqu'à nos jours, il faut insister sur le fait qu'il s'agit de la première théorie dans ce domaine qui s'appuie sur un travail statistique approfondi. De fait, il faut attendre le milieu du XXe siècle pour que soient enfin établies les premières séries historiques sur la répartition des revenus, avec la publication en 1953 de l'ouvrage monumental consacré par Kuznets à « La part des hauts revenus dans le revenu et l'épargne ». Concrètement, les séries de Kuznets ne porte que sur un seul pays, les États-Unis, et sur une période de 35 années, 1913-1948. Il s'agit cependant d'une contribution majeure qui mobilise deux sources de données totalement inaccessibles aux auteurs du XIXe siècle. D'une part, les déclarations de revenus issues de l'impôt fédéral sur le revenu créé aux États-Unis en 1913, d'autre part, les estimations du revenu national des États-Unis établies par le même Kuznets quelques années plus tôt. C'est la toute première fois qu'une tentative aussi ambitieuse de mesure de l'inégalité d'une société voit le jour. Il est important de bien comprendre que, sans ces deux sources indispensables et complémentaires, il est tout simplement impossible de mesurer l'inégalité de la répartition des revenus et son évolution. Les premières tentatives d'estimation du revenu national datent certes de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, au Royaume-Uni comme en France, et elles se sont multipliées au cours du XIXe. Mais il s'agit toujours d'estimations isolées. Il faut attendre le XXe siècle et la période de l'entre-deux-guerres pour que se développent, à l'initiative de chercheurs comme Kuznets et Kendrick aux États-Unis, Bowley et Clark au Royaume-Uni, ou Dugé de Bernonville en France, les premières séries annuelles de revenu national. Cette première source permet de mesurer le revenu total du pays. Pour mesurer les hauts revenus et leur part dans le revenu national, encore faut-il disposer de déclarations de revenus. Cette seconde source est fournie dans tous les pays par l'impôt progressif sur le revenu global, créé un peu partout autour de la Première Guerre mondiale, 1913 aux États-Unis, 1914 en France, 1909 au Royaume-Uni, 1922 en Inde, 1932 en Argentine. Les déclarations de revenus ne concernant souvent qu'une partie de la population et des revenus, il est essentiel de disposer également des comptes nationaux pour mesurer le total des revenus. Il est essentiel de réaliser qu'en l'absence d'impôt sur le revenu, il existe certes toutes sortes de statistiques portant sur les assiettes fiscales en vigueur, par exemple sur la répartition du nombre de portes et fenêtres par département dans la France du XIXe siècle, ce qui n'est d'ailleurs pas sans intérêt. Mais il n'existe rien sur les revenus. D'ailleurs, les personnes concernées ne connaissent souvent pas bien leurs propres revenus, tant qu'elles n'ont pas à le déclarer. Il en va de même pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le patrimoine. L'impôt n'est pas seulement une façon de mettre à contribution les uns et les autres pour le financement des charges publiques et des projets communs, et de répartir ces contributions de la manière la plus acceptable possible, il est aussi une façon de produire des catégories, de la connaissance et de la transparence démocratique. Toujours est-il que ces données permettent à Kuznets de calculer l'évolution de la part dans le revenu national américain des différents déciles et centiles supérieurs de la hiérarchie des revenus. Or, que trouve-t-il? Il constate qu'une forte réduction des inégalités de revenus a eu lieu aux États-Unis entre 1913 et 1948. Concrètement, dans les années 1910-1920, le décile supérieur de la répartition, c'est-à-dire les 10% des Américains les plus riches, recevait chaque année jusqu'à 45-50% du revenu national. À la fin des années 1940, la part de ce même décile supérieur est passée à environ 30-35% du revenu national. La baisse, supérieure à 10 points du revenu national, est considérable. Elle est équivalente par exemple à la moitié de ce que reçoivent les 50% des Américains les plus pauvres. Dit autrement, les classes populaires et moyennes, que l'on peut définir comme les 90% des Américains les plus pauvres, ont vu leur part dans le revenu national s'accroître nettement de 50-55% dans les années 1910-1920 à 65-70% à la fin des années 1940. La réduction des inégalités est nette et incontestable. La nouvelle a une importance considérable et aura un impact énorme dans les débats économiques de l'après-guerre, aussi bien dans les universités que dans les organisations internationales. Voici des décennies que Malthus, Ricardo, Marx et tant d'autres parlaient des inégalités, mais sans apporter la moindre source, la moindre méthode permettant de comparer précisément les différentes époques et donc de départager les différentes hypothèses. Pour la première fois, une base objective est proposée. Elle est bien sûr imparfaite, mais elle a le mérite d'exister. En outre, le travail réalisé est extrêmement bien documenté. L'épais volume publié par Kuznets en 1953 expose de la façon la plus transparente possible tous les détails sur ses sources et ses méthodes, de manière que chaque calcul puisse être reproduit. Et de surcroît, Kuznets apporte une bonne nouvelle, les inégalités se réduisent.